Hébreux chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant t'en rendre compte. Mouais, bof. Sujet d'exhortation moyen, peu populaire, et pourtant si utile dans nos églises. Par ce verset, on va essayer de comprendre ce que Dieu nous demande, ce qu'il demande à l'Église envers ses conducteurs, ce que les conducteurs doivent à l'Église, et plus globalement, ce que nous nous devons tous entre frères et sœurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble un passage qui se situe dans le chapitre 10 de Matthieu. Matthieu, chapitre 10. On lira des versets 6 à 8, et puis les versets 11 et 12. Voilà ce que Jésus nous dit. « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Entrant dans la maison, saluez-la. » Jésus avait la bonne méthode pour former les disciples. Il donnait à ses disciples des choses à faire plutôt que de choses à emmagasiner dans leur cerveau. Et les disciples lui obéirent. Jésus ne prêchait pas des sermons passionnés pour les motiver. Ce n'était pas nécessaire. Des sermons passionnés sont pour des gens qui désobéissent. Des sermons passionnés sont pour les gens désobéissants qui ont besoin d'être stimulés. Ils ont besoin qu'on joue sur leurs émotions pour qu'ils puissent sentir combien ce serait une bonne chose si l'envie leur prenait de faire ce que Jésus avait commandé. Si nous étions à l'église du Christ de Lille, sous la seigneurie de Christ, eh bien, il suffirait que nous prenions un passage de l'Écriture, il suffirait que Jésus nous dise un mot et nous n'aurions pas besoin d'une petite musique de fond ou de paroles cajoleuses depuis le pupitre. On n'aurait pas besoin de tout ça. On se mettrait en route et sans discuter, on ferait ce que Jésus nous demande de faire. Jésus n'a pas dit à ses 12 disciples « Ça vous dirait d'aller prêcher ? Vous pourriez peut-être prévoir une bonne petite tournée dans la région ?» Non. Jésus leur ordonne et les disciples obéissent. Voilà comment sont formés les disciples. Pour former des vies en Église, je parle de toute l'Église, il faut qu'on arrête de n'être que des orateurs. Je dis ça pour les personnes qui enseignent, mais aussi pour tous les frères et sœurs de l'Église. Il faut qu'on arrête d'être des parleurs, des orateurs. Il faut que nous devenions comme des pères et comme des mères. Les orateurs n'ont que des auditeurs. Les pères et les mères ont des enfants. On n'apprend pas en entendant, mais en obéissant. Alors, que se passe-t-il, parfois, quand l'orateur a fini de parler ? Parfois, moi, auditeur, je me dis « Merci beaucoup, mon frère, c'était un excellent sermon. » Et c'est tout. On n'a juste que ça à réagir. Quand les 70 revinrent à Jésus après avoir obéi à ses ordres, on vient de le lire dans Matthieu chapitre 10, ils racontèrent que les démons s'étaient soumis à eux. Jésus n'a pas dit « Oh, c'est très bien d'avoir fait ce que je vous avais commandé de faire. » Non, il avait un autre ordre à leur donner. Ne vous réjouissez pas de ce que vos noms soient inscrits. Ne vous réjouissez pas, pardon, de toutes ces choses que vous avez pu faire et voir. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Une autre histoire maintenant, vous vous souvenez quand Jacques et Jean sont très fâchés contre les Samaritains qui sont hostiles à la bonne nouvelle. Ils veulent faire descendre le feu sur ces Samaritains, rien que ça. La Bible nous dit sans équivoque que Jésus se tourna vers eux et les reprit sévèrement. Luc chapitre 9, verset 55. Et en faisant ça, il était en train de les former. Une autre histoire, quand Pierre objecta à l'idée de la crucifixion, « Non, Seigneur, tu ne feras pas ça. » Jésus lui dit, et vous connaissez cette réplique en latin même, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un objet de scandale. » Matthieu, chapitre 16, verset 23. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un responsable d'église moderne disant quelque chose de semblable à ses ouailles ? Que cela nous plaise ou non, la réprimande fait partie du processus de formation du disciple et ça fait aussi partie de l'amour que nous devons les uns aux autres. Nous l'avons vu récemment lors de notre journée de prière sur la bienveillance. Le fait de reprendre son frère, c'est un acte d'amour et de bienveillance. Alors, voici la première loi de la vie du disciple. Il n'y a pas de formation de disciple sans soumission. Parfois, nos églises ressemblent un petit peu à des clubs de sport et les membres sont des membres façon adhérents d'un club. Et ce genre de membres ne se soumet pas. C'est même le contraire, ils veulent que leurs responsables d'église se soumettent à eux parce que c'est eux qui ont le droit de vote, après tout, dans le club. Dans nos églises, parfois, les responsables se soumettent aux membres. Mais dans l'évangile du royaume, le bras dirige les doigts et non l'inverse. Alors la soumission est tellement évidente dans la Bible, à tout niveau. Éphésiens chapitre 5, par exemple. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Là, c'est plus global, c'est plus uniquement envers nos conducteurs. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et aussi ce passage que nous avons lu en Hébreux chapitre 13, « Obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. » Alors deux choses. Nous, membres de l'Église, et je me sens à l'aise pour le dire parce que je ne suis ni frère responsable, ni pasteur, ni quoi que ce soit. Je suis un frère normal, si je puis dire, comme vous. Nous devons obéir à nos responsables d'Église. À Pierre Guillot, à Pierre Andrzejewski, à Richard, à Hubert. C'est eux nos responsables. La Bible nous le commande. Mais à vous, frères responsables, vous avez une sacrée charge. Vous devez rendre compte de nos âmes. Alors, imaginons un père. Je ne sais pas pourquoi je me projette un petit peu dans cette image. Imaginons que la seule condition qui lui permette de former la vie de ses enfants est qu'il leur soit soumis. Supposons que chaque fois que ce père les reprend, eh bien, il court le risque de les voir s'enfuir vers un autre père, en leur disant « je ne veux plus être ton enfant, je veux être l'enfant d'un tel ». Et supposons que cet homme réponde « Oh, sois le bienvenu entre donc ». Eh bien, ce père se verrait contraint de cesser de corriger ses enfants, de peur de les perdre. Mais ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne. Le vrai père corrige parce qu'il est certain que de bons enfants vont rester à la maison. Quoi qu'il advienne, ils sont soumis. Dans l'Église, nous ne pouvons pas former des vies parce que si on devient trop sévère, eh bien, les gens s'en vont. Les mauvais enfants s'en vont. Ils s'enfuient vers un autre orphelinat. Paul dit à Tite, « Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. » En Tite, chapitre 2, verset 15. Alors, vous, responsables d'église, vous devez d'abord nous parler comme à des enfants. Et si vos enfants ne vous obéissent pas, vous devez les exhorter encore à leur obéir. Si rien ne se passe, vous devez reprendre avec une pleine autorité. Autrement, vous aurez des enfants gâtés. Alors, supposons, encore une fois, un père qui veut former ses enfants à l'hygiène. Et imaginons qu'il utilise la méthode en vigueur dans les églises. Alors on va s'imaginer ça. Il dirait à sa famille « Venez les enfants, c'est l'heure du culte. »
Aujourd'hui, le sermon traitera de l'importance de se laver le visage et les pieds. C'est vrai que c'est important. Alors asseyez-vous, nous allons commencer par un beau refrain, et je vais vous le chanter. Le savon lave mon visage, mes deux petits pieds, mes mains, oh quel bonheur. Et il leur apprend ce chant, et il les invite à chanter tous ensemble. Allons-y, chantons ce refrain. Maintenant, venons-en au message. Le savon a été inventé en Chine, vers le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il se présente en barres de différentes tailles, couleurs, parfums. Il est constitué de plusieurs huiles d'origine minérale, végétale ou animale en fonction du prix. Et quand vous le mélangez à l'eau et que vous l'appliquez sur votre visage et vos oreilles, il vous rend merveilleusement propre. Bien entendu, si vous en mettez dans les yeux, il piquera, mais pas longtemps. Et si vous êtes soigneux, vous pouvez même éviter tout à fait cette mésaventure. Alors, voilà donc comment vous pouvez garder propre votre visage, vos pieds, vos oreilles. Et maintenant, pendant que la chorale chantera tel que je suis, si l'un ou l'une d'entre vous se sent profondément touché et désire se laver le visage et les oreilles, qu'il lève la main. Fin de l'histoire. Eh bien, je peux vous dire que dans ma vie, c'est pas comme ça qu'on m'a formé. En tout cas, ce n'est pas comme ça que mes parents ont fait, ni les vôtres, j'imagine. Ma mère m'a donné un ordre et j'ai obéi. Va te laver. Maintenant, je me lave le visage et les oreilles sans qu'elle ait besoin de s'en faire. Mais à l'époque, je devais lui faire confiance. Je ne voyais peut-être pas l'utilité, mais elle savait. Même si je ne comprenais pas à l'époque, j'ai obéi et je sais maintenant pourquoi j'ai obéi. Voyons maintenant la deuxième loi de la vie du disciple. Je vous rappelle, pour ceux qui s'étaient endormis, que la première loi, c'était « Il n'y a pas de formation sans soumission ». La deuxième loi est la suivante. « Il n'y a pas de soumission sans soumission ». Et là, vous vous dites, il s'est un peu embrouillé, mais pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de soumission sans soumission. La personne qui donne des ordres à ses disciples doit elle-même être sous les ordres de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de soumission s'il n'y a pas de soumission à tous les niveaux. Souvenez-vous, en Matthieu chapitre 8, versets 7 et 9, c'est l'histoire du centurion romain. Il demande à Jésus de venir guérir l'un de ses serviteurs. Jésus lui dit « J'irai le guérir ». Alors le centurion répondit « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des chefs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Quelle foi a cet homme ! Il avait compris qu'avoir de l'autorité signifie être soi-même sous une autorité. Je ne peux moi-même créer l'autorité pour ma propre vie. Il faut qu'elle vienne de l'extérieur. Romains chapitre 13, il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et je vais parler un peu à la manière des hommes. Si Dieu avait décidé de mettre deux ou trois niveaux au-dessus de moi, eh bien très bien, ce n'est que lorsque je suis en rang que l'autorité peut passer par moi aux autres. Imaginons un sergent dans l'armée. Donc un sergent, j'ai pas fait le service militaire, mais c'est pas non plus le grade le plus haut ni le plus bas. Prenons l'exemple d'un sergent qui est dans l'armée. Il dit à un simple soldat de faire quelque chose et celui-ci s'exécute. Alors là, il est tout content, tout excité. Il dit, purée, quel pouvoir, quelle autorité j'ai par rapport à ce soldat. Qu'est-ce que je suis puissant. Je crois que je vais démissionner et que je vais créer une armée à moi dans mon quartier. Il revient chez lui et retrouve ses vieux copains. À mes ordres, les gars. Écrit-il. Faites ceci. Mais ses copains lui rient à la figure. Que s'est-il passé ? Il a perdu son autorité dès qu'il a rejeté l'autorité qui était au-dessus de lui. L'ennui avec nous, c'est que dans l'Église, nous voulons avoir l'autorité tout en restant indépendants. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez être indépendant et en même temps avoir de l'autorité. Si vous voulez avoir le droit de diriger d'autres, et je parle encore une fois de façon très humaine, vous devez être vous-même sous la direction d'autres. C'est une loi immuable de Dieu. La formation exige non seulement la soumission, mais aussi l'intersoumission. C'est ça, la formation de disciples. Et ce message s'adresse à tout le monde. Dans l'Église, on reste souvent assis sur nos chaises, et puis on chante « Reviens, reviens, toi qui es fatigué, reviens à la maison. » Alors qu'on devrait plutôt chanter, comme Jésus nous l'a ordonné, « Allez, allez, vous qui êtes assis, allez. » On a tout mis à l'envers. Les pécheurs sont morts, perdus, sourds, aveugles. Et pourtant, on continue à mettre des affiches pour qu'elles soient lues par des aveugles. Si nous n'arrivons pas à mobiliser les chrétiens qui sont censés être vivants, comment pouvons-nous espérer mobiliser ceux qui ne sont pas sauvés? Les disciples, eux, par contre, ils y vont. Ils vont au charbon. Ils sont déjà dans le monde. Ils se retrouvent n'importe où, à la maison, dans les parcs, au restaurant, à la plage. Certains se rencontrent tôt le matin, d'autres tard le soir. Elles sont souples, ces personnes-là qui sont des disciples. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long que ça, et je vais simplement essayer avec vous de comprendre ce qu'un disciple dans un corps est. Un disciple d'un corps est quelqu'un qui est dépendant, on l'a vu. Vous n'avez jamais vu un nez se promener dans la rue tout seul. Le corps doit être uni en tant que corps. Si un membre est indépendant, il ne fait pas partie du corps. Une partie du corps qui relie deux autres parties, ça c'est aussi un disciple. L'avant-bras relie la main au bras. Un disciple, c'est quelqu'un qui transmet également les éléments nutritifs. Il reçoit de la nourriture pour lui-même et pour les autres membres en dessous de lui. Un disciple, c'est quelqu'un qui soutient, qui reste en place. On ne peut pas tirer d'un coup sec sur un membre et l'arracher du corps. Vous est-il déjà arrivé qu'en rentrant chez vous, votre épouse vous dise « Où as-tu perdu ta jambe droite ?» C'est impossible, on ne perd pas ses membres comme ça. Un disciple, c'est quelqu'un qui transmet des ordres aussi. La tête donne un ordre à la main, mais cet ordre doit passer par les autres membres intermédiaires. La main ne se met jamais à mépriser l'avant-bras au point de lui dire « Je crois que je vais me détacher de toi et me relier par un câble directement au cerveau. » Ça, c'est pas possible. Nous sommes un corps. Et un corps, c'est quelqu'un de souple, nous l'avons vu. Un corps est élastique. Quand l'Église a en son sein des membres qui sont des disciples, eh bien, c'est là que l'Église forme un corps. Ce corps élastique. Alors, vous voyez qu'on a un petit peu balayé beaucoup de choses, notion de corps, mais aussi de discipline, de responsabilité que nous avons les uns envers les autres, d'intersoumission. Et moi, je voudrais vous inviter ce matin à mettre de côté vos égos, vos orgueils. Acceptons d'être soumis aux frères responsables ou à la sœur mûre et remplie de sagesse dans la foi. Si quelqu'un vous reprend, soyez suffisamment sage pour réagir comme Dieu le voudrait. Je peux vous assurer que pour l'avoir fait très peu de fois, mais le peu de fois où je l'ai fait, c'est une corvée de reprendre un frère. C'est pas par plaisir qu'on vient vous dire « je crois que tu as un problème dans ta vie ». C'est une corvée et c'est un acte incroyable d'amour. Alors, soyez autant dans l'amour pour recevoir ce reproche. Soyons un corps capable d'entendre et d'accepter d'être repris. Parce que tout ce qui se fait par les frères responsables, par les frères et sœurs de façon générale, c'est pas en vue de vous juger ou quoi que ce soit, c'est en vue de votre salut. Si quelqu'un vient vous dire quelque chose, c'est pas pour vous critiquer gratuitement. C'est simplement parce que cette personne s'inquiète de votre salut. Merci pour votre attention.